Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une chroniqueuse que nous n'avons pas eue depuis un moment pendant cet été, mais qui revient avec nous. Eva Emaizen, pour ceux qui connaissent, elle nous faisait une chronique des stupidités. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de l'écouter parce que c'est vraiment très très drôle et super intéressant en plus. Ça nous éduque, n'est-ce pas Eva? Bonjour.
Mais bonjour.
je trouve que ça nous éduque en même temps que ça nous fait rire, la façon dont tu as expliqué ta chronique. Mais on en parle dans un instant. En deuxième partie d'émission, on aura Pauline Vaillancourt, qui est la directrice artistique et membre fondateur de Chant Libre, pour parler de la mise en scène pour la création de l'opéra L'Orangerie, qui va enfin pouvoir se jouer sur scène, puisque en vue de ce qui s'est passé, il y a eu quelques soucis au moment de ce qui devait être sa sortie l'année dernière. Donc là, ça va se reprendre. Pour l'instant, on part avec LEJ qui nous disent tout se dire. Et tout se dire, c'est ce que l'on va faire avec Eva dans un instant. A tout de suite.
Tu m'enlèves, je suis perdue, tu me séduis. On recommence et on repart à l'aventure. À tes lèvres, je suis pendue, tu me réduis à néant. Je me relève, mais que veux-tu? On sera capable et coupable de ne pas faire ce que l'autre veut. Cependant, je préfère ce mystère impalpable qui flotte entre nous deux. Mon orgueil, tu l'avales, le digères, laisse passer la rage et elle revient dans un texto. Quand je gueule, tu me calmes, ça m'énerve, on aurait peut-être dû s'aimer plus tôt.
On s'étend, nous ne sommes que des victimes consentantes.
On s'écoute moins qu'on s'entend, je pourrais tout te dire. Tu me tiens par le cœur, je respire au rythme de ton souffle. Près de toi, je n'aime plus la chaleur, mais sans ton poids sur moi, putain, j'étouffe.
Et ces moments où je fais tout pour te rendre jaloux et envieux.
Tu pourrais me l'avouer, j'aimerais tellement que tu me le dises avec les yeux. Trop fier, on se ment à nous-mêmes, on dit rien même si on a déconné. Sur Insta, tu dragues des meufs, mais c'est moi, on m'a le cloné.
Je le sens bien que tu fais semblant, tu ne me regardes plus comme avant.
Mais au moins, est-ce que tu m'aimes? Car
je pourrais tout te dire.
Voilà, alors maintenant, j'ai envie de te dire, Eva, disons-nous tout. De quoi tu nous parles? Alors attention, Eva, parce que avant, quand tu venais, ça fait un bon moment que tu fais ces chroniques, il y a quand même eu tout l'été où j'ai été dans la légèreté totale. Donc, faut que je ramasse tous les morceaux de mon cerveau pour arriver à comprendre de nouveau ce que tu expliques. Alors, j'espère tu n'as pas été trop haut dans le...
Ah, là, c'est du lourd. C'est du lourd. Je ne sais pas si tu vas pouvoir comprendre.
Mais, écoute, tu m'expliqueras en deuxième partie d'émission.
Donc, c'est la chronique des stupidités où j'ai la réponse qui est la question. Et aujourd'hui, en ce moment où l'automne pointe le bout de son nez, annonciateur de la saison des couleurs, mais aussi, si on regarde un peu plus loin, annonciateur de l'hiver, je dois t'avouer que j'ai un peu de vague à l'âme.
Ah.
Eh oui, les températures baissent doucement, les feuilles s'envolent des arbres et s'éparpillent au sol. Mais tout cela ne doit pas m'empêcher de faire cette chronique.
Ah ben non.
Toute première des faramineux. Et qui va, j'en suis sûre, me redonner, ainsi qu'à tout le monde, un moral d'acier. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, je n'ai à t'offrir ni la réponse, ni la question qui va avec. Mais toi, Arlette, ô prêtresse de l'émission, reine des ondes.
Est-ce que tu veux bien le redire? Parce que je n'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça, il n'y a que toi qui le fais.
Arlette, ô prêtresse de l'émission, reine des ondes.
Oui, c'est moi, alors...
Ah, tu t'es reconnue. Toi qui as souvent la réponse à la question qui n'est même pas posée. Saurais-tu me dire à quoi correspond chronique? Allez, sois
gentille. Chronique, eh ben, chronique, c'est un sujet d'un court moment pendant lequel tu nous expliques ce que tu as envie de nous expliquer. Bon, non, ça va être plus long que ça.
T'as fait un effort, mais je vais quand même sortir ma définition du Larousse. Parce que je vois que, comme à l'habitude, tu me laisses me dépêtrer avec mes stupidités.
Parce que, Eva, j'aurais pu taper sur mon petit ordinateur en faisant « tac-tac, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement ?» Mais je ne voulais pas couper ton effet.
Donc,
j'ai fait... L'incrédule qui ne sait pas, en fait je ne sais pas vraiment pour dire la vérité, et j'attends que tu me donnes la réponse.
Ben voilà, parce que le mot chronique, en fait ça peut soit être un adjectif, soit un nom, ou même un verbe conjugué. Alors si l'adjectif s'emploie pour définir par exemple une maladie d'évolution
chronique.
Lente, voilà, ou un mal qui dure ou se répète comme le chômage chronique, le nom par contre a plusieurs définitions. Alors, ça peut être un récit dans lequel les faits sont enregistrés dans l'ordre chronologique. Ou un ensemble de nouvelles ou de bruits qui circulent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Ah oui. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Est-ce que
je peux détester ça?
Des bruits courts, malgré leur absence de jambes.
Et les bruits courts. Et les bruits ne sont pas toujours vrais.
C'est ça, mais on dit à ce moment-là...
Ce sont des bruits de couloir.
Mais on parlait de chronique. Hein.
Alors, ce sont des... j'en sais rien.
Comme d'habitude, tu sèches un peu. Hein. Mais on dit qu'on défraye la chronique.
Ah oui!
Et oui, et normal que tu ne connaisses pas cette expression, puisque
parce que ça ne m'arrive jamais.
Voilà! Je m'en doutais. Et puis donc, ça peut aussi être une rubrique de presse écrite ou audio consacrée à l'actualité dans un domaine particulier, politique, théâtral, sportif, judiciaire. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi le Larousse a omis de citer la fameuse chronique des stupidités.
Je
pense que c'est un peu vexant. Hein.
Complètement. Mais d'ailleurs, on va leur écrire.
Je pense qu'il faudrait, parce que franchement... Bref, il y a aussi le verbe chroniquer, que je ne connaissais pas, mais qui me convient tout à fait, puisque cela veut dire consacrer à un événement ou à une œuvre une chronique dans une émission. Voilà donc que je chronique dans la stupidité, et que, paraît-il, j'y excelle. Mais tout cela est bien beau, car le temps passe, et nous n'avons même pas encore entrevu l'étymologie du mot chronique, qui vient du latin chronica, chronicorum... C'est-à-dire qui appartient au temps. Mais évidemment, on se doute bien que le latin l'a emprunté au grec et au dieu Chronos. Oh. Alors là, on ne rigole plus. Parce que dans la mythologie grecque, rien n'est simple, pour ne pas dire que tout est
compliqué.
Un peu compliqué. En effet, tout le monde a entendu parler de Chronos. Mais en fait, dans la vraie vie, il y a deux Chronos. L'un,
bon.
Oui, Chronos, K-R-O-N-O-S, est le fils d'Uranos et de Gaïa, la Terre. Et l'autre, Chronos, K-H-R-O-N-O-S, est le fils d'Hydros et de Gaïa. Donc non seulement il y a deux Chronos, mais en plus ce sont des demi-frères, puisqu'ils partagent la même mère.
Ah mais je ne savais même pas qu'il y en avait un avec un H.
moi non plus, mais on ne dira pas.
D'accord.
Alors, essayons d'y voir plus clair, ou au moins d'y voir moins flou, parce que là, ça se complique. Le premier Chronos est un titan, qui est devenu vachement intéressant, car c'est le papa d'enfants super célèbres, et ça, on le verra un peu plus tard. Mais son histoire est assez étrange, voire palpitante. Attache Tatuc, on part dans les chemins mystérieux et assez space des divinités grecques.
J'adore ça.
Le papa de Chronos, c'est-à-dire Uranos, avait pour manie, on a les manies qu'on peut, d'enfermer ses enfants dans les entrailles de la terre maternelle, ce qui avait tendance à agacer Gaïa, leur mère. Un jour, quand elle en a eu vraiment ras-le-bol, elle a tout simplement demandé à son fils Chronos de les délivrer et lui a donné pour se faire une faucille en silex pour tout simplement qu'il émascule son père. Fallait y penser, non? Bah, rien de très banal, quoi. Alors tu vois, c'est pas plus compliqué que ça.
Mais Chronos... C'était un temps qui n'existe plus aujourd'hui. Je dis ça pour les jeunes oreilles qui
pourraient
écouter et qui se diraient, tiens, c'est une manière de faire. Non, no way, pas ça.
Non, c'était il y a longtemps. Mais Chronos, qui était bon garçon, a obéi à sa maman et a donc émasculé son père. Bon, il en a profité pour lui prendre le pouvoir, on n'est plus à ça près.
Oui, évidemment.
Et jusque-là, tout paraissait relativement simple, et ce n'est qu'après que ça se complique un peu. En fait, comme il était un peu inquiet à l'idée que ses enfants fassent comme lui, tu vois, et puissent le détrôner un jour, il s'est mis, devine à quoi faire. Ah.
Vas-y, parce que...
il se mit à les manger.
Voilà, c'est ça. Je voulais pas couper ton élan, alors c'est pour ça que j'attendais.
Et moi qui croyais que tu n'y avais pas pensé.
Si.
C'était simple.
Si.
Donc,
ça, je le savais, pour une fois.
Mais t'en sais des choses, plein. Et c'est donc un titan bien comme il faut, qui, pour résumer, émascule son père et bouffe ses enfants. Mais il est temps de dire qui étaient ses enfants. Alors, il avait plein de rejetons, mais entre autres, il avait Poséidon, Hadès et Zeus. Alors, pas besoin de dire qui a gagné et détrôné son père, s'il en est un de la mythologie grecque dont on se souvient, c'est bien Zeus.
Oui.
Et faut dire qu'il avait un fameux papa. Bon. Mais n'oublions pas notre sujet de départ, qui est la chronique et son étymologie. Nous avions deux Chronos, et l'autre Chronos, qui est le fils d'Hydros et de Gaïa, c'est le père des heures, la personnification du temps, et c'est donc lui dont on parle lorsqu'on utilise le mot chronique. Mais voilà que le temps est écoulé, et que ma chronique des stupidités à peine commencée se termine déjà, ma chère Arlette. Dans le sérieux de cette chronique, où à peine une ou deux idioties apparaissent, je ne voudrais pas que tu croies que je cherche à étaler une culture que je ne détiens pas. Alors, pour finir sur Chronos et la chronique, je pense qu'une petite fable express permettra de remonter un peu le niveau d'intelligence.
Alors, nous t'écoutons.
Ces vaches, dans le pré, subissaient les assauts d'un tas de parasites. Des temps qui les piquaient en nombres colossaux, seul leur grand coup de queue était bien émérite. Moralité, elles passaient leur journée à tuer le temps.
Musique, reste avec nous.
j'me défile d'actualité.
On vient d'écouter Hervé qui nous chantait Monde meilleur. Est-ce que nous sommes dans un monde meilleur? Pas sûr, parce que émasculer son père, ça ne se fait pratiquement plus. Bouffer ses enfants, normalement, ça ne se fait pas. Par contre, jeter son père pour prendre sa place, ça se fait encore. Ou jeter celui qui t'a tendu la main pour prendre sa place, ça se fait encore.
Pas faux.
Alors, l'un dans l'autre, vois-tu?
Est-ce que tu essayes de me dire que ma chronique est vieille?
Non, pas du tout. Ta chronique est très intéressante. Et là, tu l'as laissée... J'aurais bavardé Dieu et déesse pendant un bon moment, en fait.
Ouais.
Mais c'est bien de l'avoir fait comme ça, parce que ça donne envie de relire certaines choses, pourquoi pas.
Oui, le côté léger, prime sautier de la mythologie grecque, peut-être.
Qu'est-ce qui t'a incité à le voir par cet œil-là, le mot chronique? Puisque tu avais choisi le mot chronique, ce que je peux comprendre, tu l'entames dans les faramineux, mais tu as déjà fait le 5 à 7, tu as déjà fait plein d'autres choses.
Alors justement, c'est une excellente question, je te remercie de me l'avoir posée.
Et tu n'as pas de réponse là-dessus.
Je n'ai aucune réponse là-dessus. Je pensais faire une chronique sur l'automne, mais je me suis dit que ça allait être trop déprimant, je l'étais déjà trop. Et je me suis dit, mais c'est vrai, je fais une chronique des stupidités sans même savoir ce que veut dire chronique. Donc, voilà, je me suis dit, allez, allons chercher ce que chronique veut dire. Et voilà où ça m'a conduit, dans des endroits, des chemins un peu bizarres.
Mais en même temps, à part connaître l'histoire, enfin, dans l'histoire ou dans des lectures différentes, celui qui a émasculé son père et qui s'est retrouvé dans cette folie-là, le demi-frère, j'en ai jamais entendu parler. En fait, je ne dois pas entendre parler de tout, mais je veux dire, je ne l'ai jamais lu.
En fait, moi, je connaissais qu'un seul chronos, qui était celui, le père du temps, quoi. Enfin, celui... Et je connaissais pas, enfin, je connaissais pas l'autre chronos, justement, ce titan qui s'est mis à...
Ah, bah alors,
à...
moi, c'est le contraire. Ah, bah voilà. Comme quoi, nous aurions dû échanger nos... à nous deux, on connaissait les deux. Bon, ben oui, chronomètre, c'est de là que vient chronomètre aussi.
Ben oui, 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 oui. Mais donc, voilà, c'est l'union fait la force. À nous deux, on était les reines de la stupidité.
Parce que je crois que j'ai déjà... Cette histoire-là s'est déjà racontée à travers des pièces de théâtre. Donc,
oui, c'est
C'est certes, alors comme je suis une adepte du théâtre, sous toutes ses formes, je pense que c'est de cette façon-là que j'ai appris ça.
Ouais.
Ou peut-être en lisant certains textes. Et alors que le temps, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus connu, ben, je ne sais pas, c'est pas ce qui me venait en tête le plus facilement.
Non, mais c'est ça d'être cultivé, qu'est-ce que tu veux. C'était vraiment... On ne peut pas parler avec toi, quoi. Non, c'est alors, trop simple pour moi, chronos, le temps.
Je vais finir parce que je vois bien que tu ne veux pas bavarder là-dessus. moi, je cherche toujours la difficulté, mais il y a peut-être des gens qui sont comme moi, donc je vais vous en discuter. Il m'est arrivé de voir, lorsque j'étais petite fille, un humoriste de l'époque, donc autant vous dire que ça, c'était il y a longtemps, qui avait sur scène un piano et un tabouret. Et il se posait des questions pour pouvoir nous jouer un morceau de musique. Et il a donc été poussé le piano vers le tabouret. Donc je pense que je reste des années après toujours avec ça. C'est-à-dire que je cherche toujours le plus difficile pour le ramener au plus facile au lieu de prendre... Voilà.
Ce qui tombe sous le sens, hein.
T'as vu, ouais. Et c'est vrai en plus, je trouve que c'est vrai. Donc chaque fois que je me retrouve dans ces circonstances comme celles que tu me fais vivre aujourd'hui, en disant bah oui, c'est le temps quand même, c'est ce qui paraît le plus logique, bah, je me dis je suis encore en train de pousser le piano contre, vers le tabouret.
Mais en fait, je pense que c'est souvent qu'on fait ça, en fait. Qu'on prend le chemin le plus compliqué et qu'on ne voit pas le chemin le plus simple. C'est très étonnant.
Bah oui. Parce qu'après, au moment où tu l'as dit, où tu as parlé du temps, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, comme dirait un célèbre feuilleton français. Mais c'est vrai que c'était ça. Et tu vois, ça ne m'est pas venu à l'idée.
Bah voilà, mais peut-être que le tabouret était fixé à la chaîne aussi. Hein. Ça, c'est pas dit. Et que le piano roulait bien.
Il y a ça aussi. Ça, c'est toutes les excuses que l'on se trouve quand on fait un détour, quand on fait mille et un détours pour aller chercher quelque chose. Voilà.
Oui, on se dit qu'il y a une raison, quoi.
Voilà, qu'il y a toujours une raison. Eh bien, écoute, toi, tu ne vas pas rester avec nous, donc tu es occupé. Nous, on va recevoir Pauline Vaillancourt. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de l'orangerie?
Non, mais tu vas me raconter un
mais
peu
l'histoire de l'orangerie. Je ne vais pas te la raconter parce qu'on n'a pas vraiment le temps que je te raconte. Puis c'est une histoire... Mais tu vas écouter Pauline Vaillancourt dans la prochaine demi-heure après, quand tu pourras. Tu reviendras puis tu l'écouteras.
Avec plaisir.
C'était pour ça que je voulais le dire. Alors, merci beaucoup, Eva. Puis on se donne rendez-vous au mois prochain.
Avec grand plaisir.
Où tu reviendras encore avec une nouvelle chronique surprenante, intéressante et drôle. Comme
et avec
d'habitude.
Une fable express.
Avec une fable express, bien sûr, la bonne finalité. Merci Eva, au revoir.
Merci Arlette.
On se quitte avec Dans le Shed qui nous chante Naufragé.
On habite un pays brûlé par la guerre. On vit dans les débris, les cendres et la poussière. Pas de loi sauf celle des tortionnaires. Ici, y a pas de voix sauf celle des battants-guerres. Ici, on prend pour proie des femmes comme ta mère. Ici, c'est pas l'endroit pour devenir ton père. Ghetto sur un bateau, nous partirons en mer. Nous franchirons les eaux. Sans papier.
de mes chimères, endors sous un abri, bientôt ce sera l'hiver. Ici quand il fait froid, on s'endort en cuillère. Ici quand tu naîtras, serons-nous mieux qu'hier.
Alors comme annoncé tout à l'heure, dans le shed qui nous chantait Naufragé. On va faire une petite pause musicale, une petite pause, pardon, avant de rejoindre Pauline Vaillancourt, avec qui on va parler de l'Orangerie et de sa création de l'opéra qu'elle en a fait suite à cette lecture, suite à ce livre, et qui est aussi une pièce de théâtre. Donc restez avec nous, on en parle dans un instant, à tout de suite.
Les Faramineux avec Arlette Farah.
Got an old slouch hat, got my roll on my shoulder. I'm as free as the breeze, and I'll do as I please. I'm just a bombing around. I got a million friends, I don't feel any older. I got nothing to lose, not even the blues. I'm just a bumming around. And whenever worry starts to bother in me, I grab my coat and my old slouch hat and hit the trail again, you see. I ain't got a dime, and I don't care where I'm going. I got nothing to lose, not even the blues, just a bumming around. Got an old slouch hat, got my roll on my shoulder. I'm as free as the breeze, and I'll do as I please. I'm just a bumming around. I got a million friends, don't feel any older. I got nothing to lose, not even the blues. Just a bumming around. And whenever worry starts to bother in me, I grab my coat and my old slouch hat and hit the trail again, you see. I ain't got a dime, I don't care where I'm going. I got nothing to lose, not even the blues. I'm just a bumming around.
Alors, on vient d'entendre Willie Nelson qui nous chantait Just Bumming Around. Et maintenant, on est avec Pauline Vaillancourt. Bonjour, Pauline.
Bonjour, Madame Farah.
Alors, ça nous fait. Vous pouvez m'appeler Arlette, vous savez, pendant l'entrevue.
Parfait. C'est bon.
Ça nous fait plaisir de vous avoir. Donc, on va parler comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, vous êtes directrice artistique et membre fondateur de Chant Libre et vous avez fait la mise en scène et la création de l'opéra L'Orangerie. Donc,
oui.
l'orangerie, ben, qui aurait dû passer l'année dernière,
voilà.
En fait, l'année dernière va passer enfin au mois d'octobre 2021. Ça, c'est sûr. Donc, c'est déjà une bonne chose. Alors,
confirmé.
Comme c'est confirmé, on va reparler de tout ça. Donc, l'orangerie est un livre de Larry Tremblay. Donc, dans cette histoire que vous allez nous conter en quelques minutes, comme ça, qu'est-ce qui est venu vous toucher? Quelle a été votre réaction face à cette histoire? Alors, d'abord, vous nous mettez un petit peu en contexte.
Oui. Bon, d'abord, évidemment, à Champs Libres, avec la compagnie, je pars toujours de certains coups de cœur. Je pense que c'est un peu ma façon de fonctionner.
Mais je crois que vous partez tout le temps de coups de cœur.
Voilà. Et j'ai eu un coup de cœur en lisant la pièce de l'Orangerie il y a déjà quelques années, en me disant que oui, ce qui est venu... Malgré que le texte lui-même parle de la guerre et des enfants soldats qui sont sacrifiés comme kamikazes pour aller défendre leur pays ou leur cause, etc. Donc c'est un peu un plaidoyer pour les enfants soldats que Larry Tremblay voulait amener. En dehors de ça, en lisant le livret, je me suis mise à la place de la mère qui doit sacrifier non seulement un de ses enfants, mais comme elle demande de faire l'échange, ce sont des jumeaux, elle perd ses deux enfants. Et en même temps, elle perd son mari, elle perd son milieu, elle perd sa cause. C'est une femme finie après. Et c'est venu me chercher, peut-être parce que je suis une femme et que je trouve que des fois, on nous en demande beaucoup. Et ça,
alors, je vais juste vous couper pour reprendre en disant... Très souvent,
oui,
on nous en
voilà.
demande beaucoup.
C'est ça. Très souvent, heureusement, pas tout le temps, mais j'avais envie de souligner ça. J'ai entendu dans ce texte les voix de la mère. Et pas la M-E-R, mais mère. Donc, j'ai parlé tout de suite à Larry Tremblay pour demander s'il accepterait de faire un livret partant de son histoire. Évidemment, ça voulait dire beaucoup de coupures pour lui, parce que évidemment, si on chantait tout le texte du roman, en aurait pour 4 à 5 heures.
Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Au moins 4 heures, oui, ça, c'est sûr.
C'est ça. Donc, il a accepté de faire le livret et je me suis mise à la recherche d'un compositeur qui pouvait entendre ou voir ou vivre ou qui a déjà vécu la guerre. Parce que je crois et je sais qu'ici, on est un pays chanceux où on est dans la paix, où on ne sait pas trop ce que c'est que de recevoir des bombes sur la tête à cœur de jour. Donc, il me fallait un compositeur. Et j'ai été chanceuse.
Et comment vous l'avez rencontré?
Eh bien, d'abord, c'était une suggestion de ma sœur Lorraine qui... musicienne, elle avait déjà connu un compositeur libanais, elle m'a dit va entendre des choses de lui, et effectivement en entendant ses voix, parce qu'il écrit beaucoup pour la voix, et j'ai entendu des choses et je suis tombée en amour avec sa musique. Et bon, on le sait, hein, quand il y a des coups de cœur, autant pour les textes, autant pour la musique, la difficulté dans une production, c'est de réussir à réunir des gens d'acabits différents et d'expériences différentes, mais en quelque part, on sent que ça va marcher ou que c'est avec celui-là qu'on veut travailler ou avec tout l'autre. Ne me demandez pas à quoi ça tient, je ne sais pas. Mais un certain instinct me disait que cet homme comprendrait. Et le pire, le plus drôle, en fait, c'est qu'il m'a d'abord dit non. En lisant le texte, parce qu'il ne l'a pas lu jusqu'au bout, puis il disait « Non, ça vient trop me chercher. » Parce qu'il a vécu la guerre jeune à Beyrouth, et il habite autant Beyrouth que Paris. Donc, il a les pieds sur les deux continents, ce qui va très bien dans l'histoire de l'Orangerie, qui se passe d'abord au tout début à l'intérieur d'une famille musulmane à qui on demande, à cause de la guerre, le sacrifice d'un enfant. Et cet enfant est exilé finalement à Montréal, ou à, je dis Montréal, non, en Amérique.
Aux États-Unis, oui.
Oui, c'est bon, y a pas de précision de lieu, oui. ni d'un côté ni de l'autre. Bon, étant à Montréal, j'ai décidé que ça se passait à Montréal.
Tout à fait.
Il n'y a rien qui le décrit en tant que tel.
Ce qui est important, donc, c'est l'histoire qui lui arrive, c'est plutôt ça.
Et comme en même temps, Zad Moultaka a beaucoup en lui les musiques orientales et occidentales, donc c'était très intéressant de travailler avec lui, et même assez passionnant, j'avoue. Franchement, on est là-dedans par-dessus la tête. Ça nous sort par les yeux, par les oreilles, et on a très hâte que le public vienne enfin entendre cet opéra qui est sur le carreau depuis... sur le tableau de bord de nos priorités depuis un...
Combien de temps?
Ça prend toujours autour de 4 ou 5 ans monter un opéra, oui. Le temps de réunir les équipes, mais aussi de l'écrire. L'écriture est toujours très longue, parce qu'il faut partir du livret, mais après le livret, tu travailles avec le livret. Après, c'est le visuel qui rentre, c'est toutes les équipes de production, et j'aime travailler très près avec tout le monde, très rapidement. Donc, tout se fait en même temps, mais c'est peut-être plus long. Enfin, je pense pas. Je crois que les créations, en général, ça prend tout ce temps.
Il faut le dire, parce qu'on n'en est pas toujours conscient quand on va voir un spectacle, de tout c'est ce qu'il y a derrière, du travail des êtres humains derrière, mais du temps aussi que ça prend, et de tout ce qui est fait comme ça, on n'en a pas suffisamment conscience. Alors là, on va bien sûr, on va entendre un petit extrait parce que je peux pas mettre plus long.
Non.
on va en entendre 3 minutes d'un morceau choisi du départ là pour qu'on entende un petit peu à la fois de la musique, à la fois du texte, à la fois tout ça, et puis on en reparle tout de suite après si vous le voulez bien. Donc on va écouter.
Avec plaisir, oui.
Ahmed riait aussi.
Si Ahmed pleurait, Aziz pleurait aussi. Si Aziz riait, Ahmed riait aussi.
Leur grand-mère s'appelait Chahine.
Voilà. Voilà, ce n'est qu'une partie, Pauline. Hein,
qui est une introduction, carrément.
Voilà.
Vous avez mis l'introduction oui. de l'opéra.
Ben, c'était.
Alors, donc, c'est une mise en bouche. Au tout début, on explique un peu le contexte. Et pendant cette introduction, chaque personnage va endosser son rôle. Voilà, vous avez mis en scène l'opéra.
vous avez là-dedans choisi quelqu'un, un comédien, qui parle du texte.
Non, ça c'était prévu pour le prélude. En fait, là, vous avez mis l'extrait du prélude qu'on a créé.
Ce que vous avez fait l'année dernière, pour que ça puisse se faire. Mais ça n'y est pas, alors.
C'est-à-dire que ce comédien, qui n'est pas un comédien dans l'histoire, en fait, il devient un cinéaste.
D'accord.
Qui apparaît à la fin où il met en scène. Quand on se retrouve dans la partie où Ahmed se retrouve à Montréal ou en Amérique, si vous voulez.
Pour monter sa pièce.
Il y a un cinéaste qui l'a trouvé et qui veut le mettre en scène et qui met en scène la guerre. Et Ahmed trouve qu'il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Alors, d'où lui vient alors l'obligation d'expliquer pourquoi il ne veut pas que le cinéaste mette la guerre de cette façon-là ou qu'il parle de l'enfant qui va se faire tuer de cette façon-là. Donc, il raconte son histoire. Et c'est là que, au moment où il explique au cinéaste, il explique plusieurs extraits de souvenirs qu'il a de son passé, du moment où il était au Moyen-Orient.
Oui.
Pendant la guerre. Donc, c'est ça. Là, c'est le début, le chœur préenregistré qui met la table. C'est vraiment l'ouverture de l'opéra. Mais sans le comédien qui est ajouté, c'est vraiment... il arrive seulement qu'à la fin, dans les dernières... dernière demi-heure de l'opéra.
Pour représenter, bien, voilà, celui qui a pu échapper à tout ça. Enfin, échapper.
Voilà.
Il en a, à mon sens, il en a échappé physiquement, mais pas dans sa tête.
Absolument, ça c'est Ahmed. Oui.
Donc,
ce n'est pas le comédien qui le joue, c'est vraiment,
oui.
Il est là depuis le début, c'est ça. On a deux enfants jumeaux, dont un qui se fait kamikaze, qui part comme kamikaze.
Qui se fait qu'on oblige.
Qui a pris sa place, c'est ça. On oblige les parents, qui sont dévastés d'ailleurs, à sacrifier un de leurs deux jumeaux. Et comme la mère, il y en a un qui est malade et qui va mourir de toute façon, qui est Aziz. Et la mère ne veut pas perdre ses deux enfants parce
Mais
que
oui.
là, c'est soit Aziz va mourir et Ahmed est sacrifié pour la guerre. Alors elle demande à Ahmed de donner sa place à Aziz.
Voilà.
Et finalement, l'enfant accepte et ils échangent la ceinture de bombes, d'explosifs. Et c'est Aziz qui part à la guerre, se faire sauter. Lui a appris qu'il serait de toute façon mort, alors autant servir de héros
Bien
pour
sûr.
La famille, etc. Et Ahmed reste jusqu'à ce que le père découvre la...
Parce que
le subterfuge.
Le père, par orgueil de la famille, souhaitait que son meilleur fils soit donné...
C'est ça. Parce qu'il ne se voyait pas sacrifier un enfant malade déjà. Donc, plutôt que de tricher dans ce sens, il envoie son fils sain, son fils en santé.
Oui.
Il veut envoyer son fils. Et c'est la femme, la mère qui déjoue tout ça. Alors voilà, c'est assez complexe comme histoire. Ce n'est pas banal.
C'est déjà énorme d'avoir à sacrifier un enfant, malade ou pas.
C'est ça. Et vous savez, c'est des choses qui se passent.
Oui.
Qui se passent.
Bien sûr.
Voilà.
Donc, ce spectacle a lieu le 19, 20, 21 octobre au Monument National.
Dans la grande salle, oui.
D'accord. Et dans la grande salle, oui. Et il est repris à Québec?
Oui. Le 5 et 6 novembre, donc peu de temps après, à Diamant, la salle Diamant de Québec, la salle magnifique de Robert Lepage.
Ah, vous devez être plus que ravie.
Ah oui, absolument, absolument. Alors, c'est certain que plus on joue, vous savez, faire 3 représentations après des mois de travail, c'est toujours
c'est court.
Frustrant.
Oui, bien sûr.
Mais vrai. Ça implique tellement de monde et beaucoup de musiciens. On est en collaboration avec le Nouvel Ensemble Moderne. Donc, il y a quand même 9 interprètes sur scène. Alors, c'est assez consistant, si je puis dire.
Oui.
Donc, d'en faire 5 représentations, en espérant d'ailleurs que ça sorte ailleurs et que ça fasse son chemin. Mais c'est toujours des espoirs qu'on a pour chaque production. Les artistes connaissent bien ça.
Mais vous aussi, oui, vous aussi, vous connaissez bien ça.
Ce travail, oui, c'est ça, tout à fait, absolument.
Depuis le temps que vous le faites, vous êtes passé par tout ça. Et puis là, ça a été particulièrement difficile hein, l'année dernière pour tout le monde, d'ailleurs. Donc,
absolument, c'est qu'on était pour rentrer en salle, donc on était
oui.
un peu comme si on a été arrêté la bouche toute grande ouverte.
Ah oui, oui, il n'y a rien de plus horrible que d'être prêt à ce moment-là et puis de...
En état de mouvement alors que...
De sentir que ça s'échappe.
C'est ça, absolument.
Donc là, il reste pas grand-chose. Même pas 3 semaines, deux semaines
non,
et demie.
Non, c'est ça, ça s'en vient très vite. Mmh. Et c'est beaucoup de boulot et j'avoue, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les chanteurs. Vous savez que pour les chanteurs actuellement, c'est loin d'être facile.
Ah oui.
Toutes les répétitions se passent avec le masque. Inutile de vous dire que rien que le dire, j'en ai mal au cœur.
Oui.
Parce que ça me fait mal pour eux, parce qu'il faut tellement d'oxygène pour chanter.
Oui.
Et bon, c'est bien sûr que le spectacle ne sera pas donné dans ces conditions-là, mais tout le travail est fait. On est très prudent à l'intérieur de nos bulles de travail, mais c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai vraiment l'impression d'avoir des morceaux d'un casse-tête que je pensais connus et que je remettais les morceaux qui étaient dispersés ensemble. Mais là, je reconnaissais pas le casse-tête. C'est un peu comme ça,
oui.
si ça devenait autre chose, parce que on dirait qu'on a peur de se toucher, on a peur de se rapprocher, on a peur de chanter, on a peur de... Mon Dieu, c'est terrible. J'ai bien hâte que ça se termine.
Oui, bah oui, nous aussi qui sommes dans la salle avons bien hâte que ça se termine pour pouvoir
absolument.
D'abord remplir les salles correctement, comme il faut,
absolument.
Comme avant. Et avoir
alors,
cette espèce de passage ouais. d'émotion là, qui vient de la scène et du public et qui fait du bien. Voilà.
Oui, absolument. Et on espère alors, que le public viendra nous voir parce qu'on a beaucoup d'émotions à leur partager.
C'est sûr. Alors, on le répète, comme on est à la fin de cette entrevue, donc on le répète, c'est 19, 20, 21 au Monument National en ce qui concerne Montréal.
Octobre.
Voilà,
c'est
octobre,
ça.
19, 20, 21 octobre et les 5 et 6 novembre pour Québec.
C'est voilà.
Alors, écoutez, je vous dis pas le mot de Cambronne, je sais pas si ça se dit ou pas. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour tout ce que vous avez à faire.
Ça se dit et je vous répondrai pas.
Merci beaucoup, Pauline Vaillancourt.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir. Yeah. Yeah. It is it. SOS AC.
De regreso, lo que no ahorre ya lo tiene en ingresos. Cuando se acuesta esa hora me despierto. Y si como con las manos, ella come con cubiertos. Mis cuates babean por sus amigas. Sus amigas parecen mis enemigas. Trabajan para ti como hormigas. Y lo nuestro está pintado como Frida.
Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás. moviendo la cadera, ra, 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 dando la vueltita, se voló la faldita, mis ojos se cruzaron y se dio cuenta, no pude esquivar su patada voladora, ni cachetada, me caí en la pista, con corazoncitos de caricatura alrededor de mi cabeza.
Nous sommes à la fin de cette entrevue, bien sûr, à la fin de cette émission, pardon, de cette entrevue. On vient d'écouter Sonido Pesao qui nous chantait Dime que si. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Donc, merci beaucoup à Pauline Vaillancourt et à Eva Meizen pour cette émission. Sachez que demain, pour ceux qui nous suivent régulièrement, ben, on va parler des expos du Musée des Beaux-Arts et on va reparler du Festival des Couleurs avec un des invités qui doit être là et qui s'appelle Thérouse. Si vous voulez écouter un petit peu avant qui il est, ce qu'il est, eh bien, il sera avec nous demain. Donc, merci Maurice Bolduc pour les musiques. Et puis, je crois que ben, tout a bien été. Puis, je souhaite que pour ce spectacle, pour cet opéra, ben, il y ait beaucoup de personnes qui puissent sortir, y aller, y assister, parce que je crois que tous les artistes ont besoin de nous, ont besoin de ceux qui ont envie d'aller les voir et puis d'être là pour leur prouver que voilà, on a toujours confiance et qu'on les aime toujours. Merci à toutes et tous, je vous dis à demain, à même heure et même endroit. Bye.